Voilà, bonjour à tous. Voilà, tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce dans notre vie. Vous savez que dans ce monde, les hommes aiment admirer les belles œuvres, n'est-ce pas? Les tableaux, les monuments, les statues, les lieux qui existent hein, par la création même de Dieu. Ils aiment admirer les belles œuvres et il n'y a aucun mal à cela. Au contraire, on peut tout à fait apprécier ce que Dieu a créé, mais je voudrais quand même dire à quelqu'un ce matin que la plus belle œuvre qui n'ait jamais été faite et qui ne sera jamais faite et égalée, ça s'est passé là. Ça s'est passé à la croix. À la croix. Car c'est là que Jésus-Christ était en train de payer pour l'humanité le prix du péché afin que quiconque croit en lui ne soit point condamné, mais qu'il soit pardonné, délivré et qu'il soit sauvé. Amen. Lisons ensemble la parole de Dieu pour introduire ce message dans le psaume 103. Nous allons le lire en entier. Il est bon, hein, de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Et juste avant, recommandons à Dieu donc sa propre parole afin que lui-même puisse s'exprimer ce matin. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes là pour entendre encore ce message d'amour, de grâce, de pardon que tu annonces à tous les hommes sur cette terre. Nous rappelons que ta parole dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et c'est ce beau message de l'amour de Dieu qui va être annoncé en ton nom ce matin. Saisis-toi de moi, Christ Jésus. Dis ce que tu veux dire et fais ce que tu veux faire pour ta gloire et le salut des âmes. Amen. Il est dit de David: Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'Éternel, ses jours sont comme l'herbe. L'homme, pardon, l'homme. Ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui avez exécuté ses ordres. En obéissant à la voix de sa parole, bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Nous voyons ainsi que le psaume a commencé de cette manière. Il est dit: Mon âme bénit l'Éternel. C'est un homme qui est en train de se parler à lui-même, mais il est vraiment en train de parler à ce qu'il est, parce qu'il dit « mon âme ». Et en nous, ce que nous sommes réellement, c'est l'âme. C'est cette partie de notre personne qui nous représente vraiment et qui ne mourra jamais, car l'âme est éternelle. Donc vraiment, il considère qui il est vraiment, tout ce qu'il est. Et il dit, il faut que tu bénisses l'Éternel. Il a commencé comme ça et il termine le psaume de la même manière. Mon âme bénit l'Éternel. Et Dieu veut qu'une personne ce matin ou plusieurs apprennent à se parler à soi-même de cette manière en disant chaque jour, mon âme bénit l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est dit que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui couronne de bonté, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Il rassasie de bien ta vieillesse. Il te fait rajeunir comme l'aigle. Et je pourrais continuer ainsi. C'est-à-dire qu'il reconnaît cet homme que le Dieu en qui il croit et avec lequel il est en communion, en relation, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de bonté. C'est un Dieu de miséricorde. Et il veut exprimer sa reconnaissance. Il veut proclamer la bonté de Dieu. Et il dit à la personne qu'il est lui-même, « Mon âme, c'est ce que tu dois faire. Ce qu'il est bien pour toi, mon âme, c'est de dire les bontés de Dieu. C'est de passer sans cesse dans tes souvenirs. Combien ce Dieu-là, il prend soin de toi. Et même lorsque tu commets des erreurs et que tu mériterais d'être condamné, alors Dieu te fait grâce. » Il ne te condamne pas selon ce que tu mériterais. Et c'est tout cela qui passe en lui. Et il se rend compte combien ce Dieu est bon. Il était en train d'exalter Dieu parce qu'à ce moment, il comprend vraiment ce qu'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et c'est le titre de mon message. Un amour sans pareil. Un amour inégalable, sans aucune impureté. C'est l'amour de Dieu. Cet amour est insoupçonnable pour certaines personnes et même méconnu pour d'autres. Et ce matin, Dieu veut que tous connaissent son amour, que tous ceux qui sont là, même ceux qui ont déjà répondu à Jésus-Christ, mais qui ne sont pas encore entrés dans la profondeur de cet amour, et ceux qui naturellement sont là, mais qui ne connaissent pas encore cet amour, Dieu veut répandre son amour ce matin dans les cœurs. Dieu veut que l'amour de Dieu puisse nous emporter, afin que les choses qui nous font la guerre puissent devenir pour nous des choses vraiment insignifiantes, lorsque nous pourrons dire, même dans la difficulté, « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis l'Éternel. » Pourquoi donc notre âme doit-il bénir l'Éternel? Parce que dans ce monde, on pourrait dire, « Oui, c'est vrai, ça c'est facile de le dire avec des mots. » Mais dans la réalité, dans ce monde, il y a des souffrances, n'est-ce pas? Il y a des guerres, il y a beaucoup de déceptions, il y a des épreuves et nous ne pouvons pas l'ignorer. Et même en ce moment, par rapport à ce qui se passe dans le monde, il y a une guerre qui peut embraser le monde entier. Et là, on pourrait se dire, mais comment est-ce que je peux me tourner vers un Dieu et lui dire qu'il est bon à cause, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, les souffrances, les maladies, les déceptions, les hommes qui meurent, des enfants qui meurent, des accidents. Comment? Alors, cela est possible, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la réalité, quel que soit ce qui se passe dans ce monde et qui fait mal, ça n'a jamais, jamais, jamais été la volonté de Dieu pour l'homme. Jamais. Ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de ses souffrances. Ce n'est pas Dieu qui veut que l'homme souffre. Dieu n'a jamais voulu que l'homme à qui il a donné la vie puisse être éprouvé de cette manière au point d'être découragé et même de se détourner de Dieu. Non, Dieu n'a jamais voulu ça. Parce qu'il est dit que Dieu est amour. Et l'amour ne fait point de mal à son prochain. Il ne peut pas y avoir dans l'amour, il ne peut pas y avoir de mal. C'est impossible. Et 1 Jean 4, 8 le dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Car Dieu est amour. Et l'amour ne fait point de mal à son prochain, nous dit Romains 13, 10. C'est exactement comme la lumière et les ténèbres. Il n'y a aucune conciliation possible entre la lumière et les ténèbres. On ne peut pas les fusionner, on ne peut pas les concilier. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas rester. Il n'y a pas de compromis possible entre la lumière et les ténèbres. Et c'est pareil pour l'amour. Il ne peut pas y avoir de mal dans l'amour. Et regardez ce qu'il est dit. Car Dieu est amour. Il n'est pas dit que Dieu a de l'amour. Il est dit que Dieu est, il est amour. En fait, c'est la nature de Dieu. C'est son essence. C'est tout ce qui le représente. Il est, c'est sa nature, c'est sa personne, c'est son être. Il est amour. Puisqu'il est amour, il ne peut pas faire de mal. C'est impossible. Et c'est pour cela qu'en lisant la Bible, ou d'autres livres, ou d'autres croyances, ou d'autres convictions, certaines personnes pensent que Dieu fait du mal. Dieu ne peut pas faire de mal. Il y a des choses qui sont mal interprétées. Dieu ne supporte pas le péché. Dieu ne supporte pas la désobéissance. Mais Dieu ne fait pas de mal. Parce qu'il est le souverain qui dicte les règles. Il dicte les lois. Alors oui, cet homme qui dit « Mon âme bénit l'Éternel », c'était un roi, le roi David. C'était un roi, l'homme qui occupait donc la plus haute responsabilité au sein du peuple d'Israël. Et on pourrait se dire, c'était peut-être facile pour lui de dire « Mon âme bénit l'Éternel ». Eh bien non, cet homme aussi a connu ses souffrances. Parce que déjà, il était le roi et il devait faire face aux guerres, à tous les ennemis du peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël avait de nombreux ennemis et jusqu'à maintenant, nous le savons, le peuple d'Israël a de nombreux ennemis. Et c'était les mêmes choses à son époque. Même s'il a vécu il y a des siècles, il faisait face aux guerres, aux ennemis d'Israël. Et lui-même, dans sa vie personnelle, il faisait face à beaucoup de difficultés. Et le monde était dans la même situation dans laquelle nous étions. Il y avait aussi au niveau des autres nations, des guerres entre les nations. Le monde n'était pas plus apaisé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que nous avons évolué d'un point de vue technologique. La vie a été facilitée par un avantage de la technologie. Mais dans la réalité, dans la profondeur de la vie, les choses que les gens qui ont vécu avant nous et les choses qu'ils ont connues, ce sont les choses que nous connaissons. Nous connaissons les mêmes difficultés, les mêmes souffrances, les mêmes problèmes, les mêmes épreuves auxquelles nous devons faire face. Et lui aussi, ce roi, il devait faire face à des épreuves, à des souffrances, à des difficultés et à des combats. Mais cela montre que ce n'était pas les circonstances de sa vie qui pouvaient l'empêcher de rendre gloire à Dieu. Ça ne doit pas être les circonstances de nos vies qui doivent nous empêcher de rendre gloire à Dieu. C'est le fait que nous soyons en communion avec Dieu, que nous puissions vraiment connaître qui est Dieu, pour réellement entrer en communion avec lui. Et alors nous pourrons, comme ce roi, quelles que soient les circonstances, même dans la souffrance, dire « Mon âme, bénis l'Éternel, quoi qu'il se passe dans ma vie, je veux te bénir, je veux te glorifier, parce que tu es réellement ce Dieu d'amour. Et je ne veux pas que quoi que ce soit me sépare de ton amour. » 1 Jean 4, 9, 10 nous dit que l'amour de Dieu, nous venons de dire que Dieu est amour, c'est sa nature. Et maintenant, nous allons voir comment l'amour de Dieu, la nature de Dieu s'est manifestée envers nous. Il est dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils, son unique, le seul. Il l'a envoyé dans le monde. Afin que nous vivions par lui. Et ce Fils, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, pour que nous puissions vivre par lui. Et en quoi consiste cet amour? Ce n'est pas le fait que nous ayons aimé Dieu qui ait fait que Dieu nous ait envoyé son Fils. Non, c'est parce que Dieu nous a aimés en premier. Il nous a aimés premièrement. Et il a vu la souffrance des hommes. Il a vu le malheur des hommes, il a vu la détresse du monde Il a vu le mal que crée cet ange déchu sur la terre. Il a vu combien d'âmes qui sont séparées de lui dans la souffrance. Alors il a envoyé. C'est ainsi que sa nature même s'est manifestée envers l'humanité. Jésus-Christ est venu. C'est le Fils, le Dieu incarné. Dieu venant à la rencontre des hommes. Il a envoyé son Fils pour expier les péchés des hommes. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour cela que j'ai dit que la plus belle œuvre qui n'ait jamais été réalisée et qui ne sera jamais réalisée sur cette terre, c'est cette œuvre qui s'est passée à la croix. C'est là que Jésus-Christ, venu de la part du Père, a expié les péchés des hommes, afin que tous ceux qui viennent à Jésus, et ce matin, si quelqu'un n'est pas encore à Jésus, la main tendue d'amour du Dieu de gloire est là pour vous dire: oui, Jésus-Christ a expié les péchés de tous les hommes à la croix. Personne n'a été oublié. Il n'y a pas une personne qui pourrait dire sur cette terre: Dieu ne me regarde pas, Dieu ne m'aime pas, Dieu m'a oublié, Dieu ne prend pas soin de moi, je ne veux pas écouter ces choses, je ne comprends pas ce Dieu. Personne n'a été oublié. Tout a été fait pour que tous aient la possibilité d'être sauvés. Alors, ce qu'il faut, c'est comprendre cet amour ce matin. Et pour comprendre cet amour et pour le recevoir, il faut être libre. Parce que lorsqu'on est lié, lorsqu'on n'est pas libre, on a du mal à recevoir ce que Dieu veut nous donner. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à recevoir l'amour de Dieu. Et peut-être que tu es là ce matin et ça fait des années que tu te bats, ou peut-être quelques jours, et ça fait du temps en tout cas que tu n'arrives pas à recevoir ce que Dieu a pour toi. Et personne n'arrive à te convaincre. On te prêche la parole de Dieu, tu as déjà entendu le message d'amour de Jésus, ou alors c'est ce matin que tu l'entends vraiment et quelque chose se passe dans ton cœur, mais tu n'arrives pas parce qu'il y a quelque chose qui te retient encore dans la captivité. Tu n'es pas libre et le fait que tu ne sois pas libre t'empêche de recevoir cet amour. Il faut que tu sois libre pour recevoir l'amour de Jésus. Jésus a dit en Jean 8, 32, il a dit: « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Il n'y a que la vérité qui peut apporter la liberté aux hommes. Et c'est la vérité apportant la liberté te permettra et permet à tous ceux qui reçoivent Jésus de recevoir son amour, d'accepter cet amour, d'entrer dans cette alliance et de vivre différemment. Et même si les difficultés sont là, désormais d'aborder la vie autrement que ce qu'elle a toujours été avant que Jésus ne soit dans la vie. Vous connaîtrez la vérité. Si tu veux connaître la vérité ce matin, alors je veux te dire quelque chose. La vérité, elle est présente. La vérité, ce n'est pas l'Assemblée de Dieu de Toulouse-Ouest. La vérité, ce n'est pas les adventistes du septième jour. La vérité, ce n'est pas les témoins de Jéhovah. La vérité, ce n'est pas les rosicruciens. La vérité, ce n'est pas tous ceux qui adorent les arbres, les courants d'eau, la nature. La vérité, c'est une personne. Et cette personne est présente ce matin. Et cette personne veut te dire qu'elle t'aime et qu'elle est là présente ce matin parce qu'elle savait que tu viendrais. Parce que cette personne sait toute chose à l'avance. Toute chose, il la connaît. Ce qui se passe dans ta vie, il la connaît. Ce qui s'est passé hier, il le sait. Ce qui se passera aussi demain dans ta vie, il sait toute chose à l'avance. Et cette personne qui est la vérité et qui est là, prête à t'en rencontrer, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et ce matin, il te tend ses bras d'amour parce qu'il te dit: j'ai expié à la croix tes péchés. Et si tu viens à moi comme ce roi David, tu pourras toi aussi dire: mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, quelles que soient les circonstances. Alors, si c'est la religiosité qui vous tient lié ce matin, Jésus veut vous en délivrer. Même dans la Bible, Dieu parle de certaines personnes qui étaient liées par des actes de religiosité. En Colossiens 2, 21, et l'apôtre qui en parle, donc il dit: voilà, on vous met tellement de fardeaux sur le dos, et peut-être que tu es dans une communauté quelle que soit sa confession. Et ce qui est pratiqué dans cette communauté, c'est, consiste à te mettre des fardeaux sur ta vie et tu ne peux plus les supporter parce que tu es témoin et tu es conscient que ces fardeaux ne peuvent pas changer ta vie. Ces fardeaux ne t'apportent pas la joie. Ces fardeaux ne t'apportent pas la véritable espérance. Ces fardeaux ne te permettent pas de savoir qu'est-ce qui se passe après la mort. Ces fardeaux ne te permettent pas d'avoir l'assurance de ta vie, de la vie éternelle. Alors Jésus veut te délivrer ce matin de tes fardeaux. Selon Colossiens 2:21, il est dit à certaines personnes liées dans la religiosité, on leur dit « ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas ». Tout est interdit. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont liés dans la religiosité. Et la parole de Dieu dit, mais tout cela, ce sont des préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. On finit même par en abuser. Et même des personnes finissent par se suicider parce qu'on leur met tellement de fardeaux là où elles sont, dans les croyances qu'on leur inculque. Et il est dit, ce sont donc des préceptes qui deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Pour l'apparence, c'est vrai, ça semble être sage, mais dans la réalité, cela n'indique qu'un culte volontaire de l'humilité. Quelquefois, on arrive à maîtriser son corps et on pense qu'à travers ça, on va pouvoir se rapprocher de Dieu. Et Dieu dit non, même par le mépris du corps, en fait, tout cela n'est sans aucun mérite et ne peut contribuer qu'à la satisfaction de la chair. Et peut-être qu'il y a une personne là qui est dans cette situation. Et nous avons entendu le témoignage de notre bien-aimé frère Lémis. Il y a quelques instants, il faisait toutes ses prières, il était rigoureux. Il était vraiment sérieux dans cet engagement, mais pourtant il ne connaissait pas celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il n'avait pas la vie éternelle, il n'avait pas la vie de Dieu. Pourtant, il respectait scrupuleusement tout ce qu'on lui avait inculqué jusqu'au jour où celui qui est présent ce matin est venu le rencontrer à travers celle qui est son épouse aujourd'hui, à travers le témoignage de son épouse, et sa vie a changé. Sa vie a changé. Jésus l'a délivré de ses fardeaux. Maintenant, il est un homme né de nouveau et enfant de Dieu. Car tous ceux qui reçoivent Jésus deviennent des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Alors peut-être que c'est la superstition qui te tient lié ce matin. Et Jésus-Christ veut t'en délivrer. Il veut t'en affranchir de la superstition. La superstition, ça crée dans la vie des gens la peur. Les gens ne sont pas tranquilles et quelques personnes n'arrivent même pas à sortir de chez elles à cause de la superstition. Un jour, j'étais en train de cuisiner avec une chrétienne. C'était pourtant une chrétienne, une personne qui a déjà rencontré Christ. J'étais en train de cuisiner, puis à un moment donné, j'ai pris ce que j'avais sur la main, un couteau, pour remuer ce que j'étais en train de cuisiner. Donc j'ai pris un couteau, c'est ce qu'il y avait de plus près. Je me mets à remuer ce qui est en train de cuire. Et la personne qui était avec moi, cette chrétienne, elle arrive. Elle est paniquée. Elle m'a dit, oh là, que fais-tu? Tu ne sais pas qu'on ne met pas un couteau sur le feu. On ne met pas un couteau sur le feu, qu'est-ce que tu fais? Alors je lui dis, mais tu es enfant de Dieu. Explique-moi pour toi, pourquoi ne doit-on pas mettre un couteau sur le feu? Quel impact dans notre vie, nous rachetés par l'amour et le sang de Jésus versé à la croix, enfant de Dieu? Qu'est-ce que cela aura comme impact dans ta vie? Et là, elle ne peut pas me dire. Et j'insiste pour essayer de comprendre. Elle n'arrive pas à me dire. Mais tout ce qu'elle peut me dire, c'est qu'on ne met pas un couteau sur le feu. C'est de la superstition. Elle était liée par de la superstition. Et Jésus veut t'en délivrer. Quelle que soit la superstition qui te lie ce matin, si tu ne peux pas ouvrir un parapluie dans ta maison, si tu ne peux pas déposer un chapeau sur ton lit, Si lorsque tu vois un chat noir qui passe devant ta maison, tu fermes la porte vite et tu vas te cacher. Jésus veut t'en délivrer parce qu'il a vaincu à la croix de Golgotha pour t'affranchir de tous ceux qui te retiennent captif. Il est venu pour te donner la liberté et cette liberté tu ne l'auras que lorsque tu connaîtras la vérité. Et c'est lui, Jésus-Christ, qui est la vérité. Accepte Jésus dans ta vie, accepte-le comme sauveur et Seigneur de ta vie. Alors tu auras cette liberté et cette liberté te permettra d'entrer dans son amour, de recevoir son amour et de vivre désormais donc autrement que ce que tu as connu dans le passé. Il faut reconnaître Jésus comme celui-là seul qui peut te secourir ce matin. Jean 17, 3 dit « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Celui que le Père a envoyé pour te secourir ce matin, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et si on t'a fait croire que Dieu ne t'aime pas, si on t'a méprisé, si on t'a injurié, on t'a rabaissé, on t'a dévalué, et même toi, tu n'as pas une bonne estime de toi aujourd'hui, parce qu'on t'a dit, on a dit tellement de choses mauvaises sur ta vie, et même ton âme peut-être est abattue au dedans de toi. Alors je voudrais te dire ce matin, tout ce qu'on a dit sur ta vie est faux. Tout le mal qu'on a pu dire sur ta vie est faux. Jésus veut t'en délivrer ce matin. Reçois l'amour du Christ qui veut te libérer de toute la souffrance que tu as dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, de tout le mal que tu as reçu. Jésus veut t'en libérer. Libérer, parce que la puissance de la délivrance est en lui. Et cette puissance, c'est la puissance de l'amour. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dieu aime tous les hommes, sans exception. Si on t'a fait croire qu'il y a une catégorie de personnes que Dieu n'aime pas, cela est un mensonge. Dieu aime tous les hommes et il t'aime ce matin. Et avant même que tu ne sois né et que tu ne viennes au monde sur cette terre, il te connaissait déjà, il te voyait déjà. Il voyait ce jour-là où tu serais là, où lui aussi serait là pour te rencontrer. Et ce matin, il te dit, veux-tu me rencontrer? Veux-tu me recevoir comme ton sauveur? Veux-tu me recevoir comme ton Seigneur? Je suis là parce que j'ai porté tes fardeaux à la croix et je veux t'en délivrer ce matin. Veux-tu me recevoir? Veux-tu me recevoir comme sauveur et Seigneur de ta vie? Il est dit qu'en Philippiens 3, 18, 19, il y en a plusieurs, malheureusement, et même cet appel d'amour de Dieu est lancé régulièrement. Mais il en est plusieurs qui continuent. Ils continuent à marcher en ennemi de la croix de Christ. Et l'apôtre dit, mais il dit ces choses aux Philippiens en pleurant. Il pleure, pourquoi? Parce que ceux qui marchent en ennemi de la croix, qui refusent l'appel de Dieu, ils iront à la perdition. Ils iront à la perdition éternelle. C'est ce que nous dit le verset Philippiens 3, 18-19, ils marchent en ennemi de la croix et ils disent en pleurant que je dis ça parce que leur fin, ce sera la perdition. Ce sera la perdition. Dieu veut éviter que tu partes dans la perdition éternelle, dans des souffrances qui ne finiront jamais. Tu ne peux pas imaginer ce que c'est parce que le diable même ne veut pas y aller. Il ne faut pas que tu y ailles. Si tu n'as pas rencontré Jésus encore dans ta vie, c'est ce matin. C'est ce matin que tu dois le rencontrer. C'est maintenant que tu dois lui dire oui. Leur fin, ce sera la perdition. Parce que leur Dieu, c'est tout autre chose que Dieu. Ça peut être leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qu'ils font, leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et pourtant, Dieu a tant aimé le monde, nous dit Jean 3, 16. Il a tellement aimé l'homme qu'il a créé, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, ce matin, tu es là et tu peux mettre ton prénom à la place. Si tu t'appelles Jean, tu peux dire afin que Jean croit, afin que si Jean croit, afin que si Sandrine, si Armel, si Moussa, si Mokbe, je ne sais pas, quel que soit le prénom, tu mets ton prénom, afin que si moi je crois, oui, je puisse avoir la vie éternelle, que je ne périsse point. Dieu, en effet, il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. Il n'est pas venu pour condamner les hommes. Il est venu pour les sauver. C'est pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en Jésus-Christ n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas, il est déjà jugé. Parce que c'est la solution que Dieu a envoyée pour que les hommes soient pardonnés et sauvés. Donc si on n'y croit pas, si on n'en veut pas, on est déjà jugé en rejetant la solution, l'amour, la grâce de Dieu que Jésus-Christ est venu apporter aux hommes. Celui qui croit n'est pas jugé et celui qui ne croit pas, il est déjà jugé. Romains 5, 8 nous dit « Dieu prouve son amour » envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelle preuve d'amour, n'est-ce pas? Les gens aiment des preuves. Beaucoup de personnes, pour croire certaines choses, demandent des preuves. D'ailleurs, il y avait même un des apôtres de Jésus, il s'appelait Thomas, et lui, il ne voulait pas croire sans preuves. Et beaucoup sont comme Thomas, ne veulent pas croire sans preuves. Mais Dieu a prouvé son amour. Il l'a prouvé. Il l'a envoyé, Jésus. Il a envoyé Jésus. Jésus est venu et il a accompli tout ce qui devait être accompli à la croix. En Éphésiens 2, 4, 5, il est dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, parce que nous étions morts par nos offenses, maintenant il nous ramène à la vie. Il nous ramène à la vie par Jésus-Christ. Et c'est là la grâce de Dieu pour nous. Alors peut-être quelqu'un ne comprend pas pourquoi Dieu doit-il le ramener à la vie. C'est parce que sans Dieu, nous sommes tous morts. Sans Dieu, c'est la mort. Même si nous vivons physiquement dans la réalité, spirituellement, nous sommes morts. Et ce que nous attend, effectivement, c'est la perdition éternelle. Pourquoi Jésus-Christ doit-il me ramener à la vie? Parce que si tu n'as pas Jésus, tu es mort. Tu es mort. Tu n'auras pas la vie de Dieu si tu n'as pas Jésus. La vie est en Christ. C'est lui qui te communique la vie. Et c'est pour ça qu'il est dit ainsi dans le psaume 103. Dieu sait de quoi nous sommes formés et il se souvient que nous sommes poussière. Parce qu'en nous, il y a la mort. Il y a de la poussière, il y a de la matière, il y a de la terre qui doit retourner à la terre. La poussière qui doit retourner à la poussière. Dans ce que nous avons lu en introduction. Merci. Merci. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, parlant de la fleur, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Et les hommes, c'est pareil. Sans Jésus-Christ, sans l'amour de Dieu, sans le salut de Jésus, sans le pardon des péchés, nous sommes pareils à des fleurs qui passons, des vents qui passons. Et si nous mourons sans Jésus, alors nous retournons à la poussière. Nous avons été pris. C'est la poussière qui retourne à la poussière. Et l'âme, maintenant, qui n'a pas reçu Jésus du temps où il était dans ce corps-là sur la terre, alors qu'adviendra-t-il de cette âme maintenant sans Jésus-Christ? Dans l'au-delà, qu'adviendra-t-il de cette âme? Est-ce que tu t'es posé cette question? Est-ce que vraiment tu as pris le temps de méditer sur cela? Qu'adviendra-t-il de ton âme si tu n'as pas reçu Jésus qui veut te donner la vie? Alors, s'il est vrai que l'homme est poussière, l'homme a une partie en lui qui est de la terre, de la manière dont Dieu l'a créé, mais je voudrais vous dire que Dieu a créé l'homme autrement, de manière bien plus glorieuse que cela. Il n'y a pas que de la poussière, il n'y a pas que de la terre en nous. Genèse 1, 27, 28 nous dit, écoutez bien, parce que ça c'est capital, et je pense que même des enfants de Dieu, quelquefois ne comprennent pas la profondeur de cette parole. Il est dit, Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme et il va les bénir. Dieu, c'est l'être le plus glorieux qui existe. Il n'en existe point. Ésaïe 42, 8, il dit, « Je suis l'Éternel et c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Il n'y a aucun être qui soit l'égal de Dieu. C'est le suprême, c'est le tout-puissant, c'est le tout-suffisant. Il n'y en a aucun autre. Mais pourtant, quand il crée l'homme à son image, et à sa ressemblance. Il a voulu que sur la terre, Dieu, l'homme, puisse le représenter. Pensez-vous que Dieu qui crée l'homme à son image et à sa ressemblance ait eu pour cet homme-là un projet de malheur, de souffrance? Est-ce que Dieu voudrait lui-même détruire son image qu'il a mis dans l'homme? Mais non. Dieu a créé l'homme à son image. Ce n'est pas pour détruire lui-même l'image de sa propre personne dans l'homme. Jamais. Ce n'est pas ce qu'il a voulu. Donc toutes ces souffrances, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Parce qu'il a créé l'homme à son image. Il a voulu que l'homme lui ressemble. Il a voulu qu'une de ses créatures puisse refléter son image. Donc jamais il n'a voulu détruire lui-même l'image de sa personne dans cet homme. Jamais. Et si on t'a fait croire cela, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et la première image, la suprême image de Dieu en nous, de la même manière qu'il est lui-même dans sa nature amour, eh bien pour nous aussi c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu que Dieu veut voir en nous. Et c'est pour ça qu'il est dit à 1 Jean 4, 7, 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. » L'amour est de Dieu. « quiconque aime est né de Dieu. » Et quiconque, celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu. Pourquoi? Car Dieu est amour. C'est l'image de Dieu, l'amour. Et c'est cette image aussi qu'il met en nous. Et lorsqu'on arrive à entrer dans l'amour de Dieu, on va apprendre à aimer comme Dieu aime. Donc on va refléter son image. On va refléter sa gloire, son amour, sa compassion, sa miséricorde envers notre prochain. Et lorsqu'on n'arrive pas à aimer, eh bien, on n'a pas l'image de Dieu en nous. Cette image, elle a été donc détruite, elle doit être recréée donc en nous. Alors, ce matin, oui, Dieu lance cet appel d'amour dans Matthieu 11, 28, 30. Et ce matin, écoute bien, il dit « Venez à moi, venez, ne reste plus au loin, car c'est un Dieu qui est près des hommes. » Peut-être que tu ne l'as jamais ressenti, tu te dis « Ce Dieu-là, il est trop loin, trop éloigné, il est au firmament dans les cieux, là où lui-même a établi son trône, comment est-ce que je peux accéder à ce Dieu ?» Tu peux accéder à ce Dieu, parce qu'il est venu réellement rencontrer les hommes. C'est Jésus-Christ qui est venu rencontrer les hommes. Et Jésus-Christ est réellement là présent ce matin. Tu n'as pas besoin de le voir avec tes yeux visibles, mais tu as besoin simplement de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu crois, c'est la foi seulement que tu as besoin d'exercer maintenant. Et si jamais tu te rends compte que tu n'arrives pas à croire, demande à Dieu, sans crier, mais tu le fais dans ton cœur. Seigneur, si c'est vrai, aide-moi à croire. Aide-moi à croire de tout ce que je viens d'entendre. Et Jésus fera naître la foi dans ton cœur. Et tu pourras le rencontrer ce matin. Venez, ne reste plus au loin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu vas apprendre et tu vas découvrir maintenant ce qu'est le vrai repos de Dieu. Le vrai repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car mon joug est doux et léger, et je suis humble, humble de cœur. Alors, écoutez, je termine. Il y a un jeune homme à qui on avait été prêché l'évangile parce que nous avions organisé une campagne d'évangélisation. Et il y a une chrétienne, une enfant de Dieu qui avait été dans un quartier pas facile. Et pour lancer des invitations, évangéliser, et elle rencontre ce jeune homme. Elle lui parle de l'amour de Dieu. Elle lui tend un prospectus. Et lui, il a pris le prospectus, il l'a déchiré, il l'a lâché par terre, il l'a piétiné. Et il a déclaré que dans son quartier ici, il n'y a pas de Jésus-Christ. Jésus était venu à sa rencontre. Jésus était venu pour le sauver. Parce que Dieu sait toutes choses à l'avance. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Tu ne sais pas ce que te réserve ton lendemain. » Il ne savait pas. Jésus était venu pour le sauver. Il a méprisé cet amour. Et quelques jours plus tard, il a été cambriolé à un magasin. Et le responsable de ce magasin avait déjà été cambriolé plusieurs fois, à plusieurs reprises. Il en avait marre, il avait un fusil. Alors pendant qu'il était en train de partir, le cambrioleur, ce jeune homme, le responsable a tiré. Et là, il est mortellement. Et il est tombé là, dans la rue. Et une grande foule est venue. Vous voyez, ça va vite lorsqu'il y a un événement, surtout un événement dramatique comme ça. Et une grande foule est venue là. Et il était en train de mourir. Et il a dit à ceux qui étaient là avant de mourir, « Surtout, dites à mon petit frère qu'il ne suive pas mon chemin. Dites-lui à mon petit frère qu'il ne suive pas mon chemin. » Mais c'était trop tard pour lui, car Jésus était venu le rencontrer. Jésus était venu jusque dans son quartier. Il n'avait même pas eu à se déplacer. Jésus était venu à travers cette chrétienne lui dire qu'il l'aime et qu'il veut le sauver pour éviter que ça lui arrive. Et il n'a pas voulu. Et c'était fini pour lui. Où est partie son âme maintenant? Sans Jésus-Christ, il n'est pas avec Dieu. Il y a aussi un chrétien que je connaissais très bien. C'était un chrétien qui animait donc la louange dans l'église ou dans les manifestations d'évangélisation. On le connaissait, il était très connu. Et il m'avait moi-même évangélisé, je le connaissais très bien. Et puis un jour, un couple d'amis chrétiens qui sont venus ici m'ont visité et puis on est en train de parler. Et puis à un moment donné, je leur dis, mais et ce frère, que devient-il? Et ils me disent, ce frère n'est plus, il n'est plus de ce monde. Il était venu à un culte comme ce matin, il était venu à la louange comme ce matin, il était là comme nous aujourd'hui, il a adoré son Dieu, il a loué son Dieu. Et puis en entrant chez lui, il est arrivé devant sa maison. C'est le témoignage qu'ils m'ont donné. Et puis, devant sa maison, il a levé ses mains au ciel et il a dit « Mon Dieu !» Et il est tombé et il est mort. On ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Il sortait d'un culte. Mais là où on peut se réjouir pour lui, c'est que lui, il avait reçu Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur. Et on peut croire, on a l'assurance que son âme est dans la gloire avec Dieu pour l'éternité. Ce sont deux exemples, vous voyez, où chacun a trouvé la mort, mais pas la même destinée, pas la même éternité. Deux morts, mais pas la même éternité. Que choisis-tu ce matin? Veux-tu partir dans la gloire de Dieu, quoi qu'il puisse t'arriver? Ou veux-tu prendre le risque, sans rencontrer Jésus, sans l'accepter, sans recevoir son amour, de partir dans un lieu où tu vas souffrir pour l'éternité? Que choisis-tu ce matin? Jésus t'appelle ce matin, tu n'as pas encore répondu. Apocalypse 3, 21, « Voici, je me tiens à la porte. » C'est Jésus-Christ qui parle. « Je me tiens à la porte de ton cœur ce matin. » Et je frappe, si tu entends ma voix et si tu ouvres la porte de ton cœur, si tu m'ouvres la porte de ta vie, j'entrerai chez toi ce matin, là maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre ce soir. J'entrerai là maintenant, chez toi, et je souperai avec toi et toi avec moi. Et je te ferai vaincre, car c'est moi qui ai vaincu pour toi. Et alors tu pourras t'asseoir dans mon royaume. Tu pourras t'asseoir là où je suis assis dans les lieux célestes, à la droite du Père, car le Christ roi est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Il te fera asseoir dans son royaume parce qu'il te prépare une place. Veux-tu de cette place ce matin? Veux-tu aller occuper la place que Jésus t'a préparée? Alors c'est maintenant. Reçois son amour. Ne résiste plus. Dis à Dieu tout ce que tu peux vouloir lui dire, simplement dans la liberté de ton cœur, et entends la voix de l'amour de Dieu qui t'appelle ce matin. Viens à Jésus-Christ parce qu'il t'aime et il t'aime d'un amour éternel.